Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, déconfinement, Histoire de succès continue et moi je continue à faire des interviews à distance malgré le déconfinement. Désolé d'avance donc pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Aurélie Jean, qui est docteur en sciences et entrepreneuse et en passant travaille également notamment pour la NASA. Oui, oui, c'est ce genre de meuf. Aurélie est une spécialiste des algorithmes qui régissent de plus en plus nos vies, des réseaux sociaux au crédit bancaire par exemple. Elle raconte comment elle en est arrivée là, de sa tendre enfance où ses grands-parents l'ont éveillée à la curiosité, comment elle est rentrée à l'ENS Cachan, je la cite, parce qu'il n'y avait pas de filles, et elle nous parle aussi de l'influence que ses différents profs ont pu avoir sur elle, comment elle a adapté par exemple ses recherches sur le caoutchouc pour travailler sur les tissus humains ensuite, et comment elle en est venue à écrire ce livre sur les algorithmes. Bref, cet entretien est aussi passionnant qu'Aurélie est passionnée et comme d'habitude, j'espère qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcasts à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les jeudis dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Aurélie. Donc on est avec Aurélie Jean. Salut Aurélie, comment ça va ?
Salut Fabrice, très bien et toi ?
Bah ça va très bien. Aurélie, je pense, alors t'as plein de casquettes, c'est très compliqué de trouver un terme. Si j'ai bien compris, celui qui te convient le mieux, c'est de dire que t'es docteur en sciences et entrepreneur, c'est ça ?
Ouais, de manière générale, comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais, toutes les casquettes que je peux avoir, parce que c'est vrai que je suis un petit électron libre, comme certains disent, donc j'ai pas mal de casquettes, je suis affiliée à pas mal d'institutions différentes d'entreprises, et donc voilà. Donc en fait, grosso modo, je partage mon temps entre le développement algorithmique, que ce soit pour le conseil ou pour mes travaux de recherche que j'ai repris depuis un an, ou encore, j'enseigne aussi à l'université.
Ouais.
L'algorithmique, et puis voilà, au niveau doctoral et executive education, et puis j'écris pas mal, enfin j'aime beaucoup écrire, que ce soit j'ai une petite chronique dans le Point web voilà toutes les semaines, et puis j'ai écrit un livre qui est sorti en novembre dernier
et qui s'appelle De l'autre côté de la machine, où tu racontes un petit peu ton expérience à toi en tant que justement spécialiste des algorithmes. On en reparlera un petit peu après. J'ai vu aussi que t'étais mentor à la NASA.
Oui, alors c'est vrai que ça fait toujours marrer les gens.
Wow.
C'est vrai, les gens bloquent là-dessus, c'est très rigolo.
Ouais.
Alors c'est une toute petite partie en fait de mon activité, toute petite. En fait, je suis mentor pour le FDL, c'est le Frontier Development Lab, qui est un laboratoire en fait entre la NASA et l'équivalent européen. Et en fait, c'est un laboratoire de recherche dans lequel les gens travaillent sur des sujets extrêmement edgy, comme on dit, tu vois, extrêmement compliqués, particuliers, assez extraordinaires, comme par exemple essayer d'anticiper la trajectoire d'un astéroïde, des choses comme ça, quoi. Et ou de mieux gérer les déchets dans l'espace, des choses comme ça. Et donc en fait, moi, j'ai, grâce à mon ami Grégory Renard qui a soutenu ma candidature, donc j'ai pu devenir mentor. Donc ça consiste à quoi ? C'est pas grand chose en fait, mais disons que tu es là pour amener un regard un peu neuf, nouveau sur des sujets où les chercheurs ou les ingénieurs et techniciens bloquent. Donc moi, j'apporte surtout mon expertise algorithmique, mais après ça peut être très large. Et puis il y a aussi énormément de sujets aussi pour faire connaître la NASA et les sciences auprès des plus jeunes. Ça, c'est un gros challenge de la NASA. Voilà, donc il y a plein de sujets intéressants avec le FDL.
Ok, j'ai un peu l'impression que l'un de tes objectifs aussi, d'une manière générale, et on y reviendra peut-être, c'est de faire connaître d'une manière générale les sciences, et notamment auprès des jeunes femmes, c'est ça ? C'est l'un de tes trucs aussi.
Oui, disons que c'est vrai que j'ai envie d'attirer un maximum de garçons et de filles dans les matières scientifiques, parce que c'est vrai que, pour des raisons qui m'échappent encore, on voit, que ce soit chez les filles et les garçons d'ailleurs, on voit en fait que on a une chute significative du nombre d'élèves après le bac qui continuent en sciences. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que même si c'est des domaines qui sont difficiles, qui sont littéralement les plus durs, hein, on va pas se mentir, c'est aussi des domaines qui sont fascinants, où tu peux travailler dans plein de domaines, plein d'applications après. Mais c'est vrai que les filles plus particulièrement, parce que le pourcentage de filles continuant à être sciences après le bac tombe encore beaucoup plus bas. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à faire et les métiers, en fait, sont tellement nombreux, larges et pour lesquels tu peux résoudre des problèmes à grande échelle et à fort impact. Donc c'est dommage que les femmes ne se lancent pas dans ces métiers.
Ok. Donc on va retracer un peu ton parcours pour voir un petit peu comment tu fais pour devenir Aurélie Jean que t'es aujourd'hui. La première question que je pose en général à mes invités, c'est à quoi ressemblait Aurélie quand elle avait 7-8 ans, qu'elle était au CE1, CE2?
Alors, moi j'étais une petite fille très sage en apparence. voilà, très sage en apparence. En fait, j'étais une petite filou, j'étais une petite coquine, mais j'étais très très sage en apparence, parce que justement j'avais bien compris, mes grands-parents disaient toujours il faut que tu sois sage, il faut que tu souris, il faut que, voilà. Après, j'étais une petite coquine, même plus que la normale, je pense. J'étais très curieuse, je faisais des petites bêtises, j'étais très maligne. Et voilà, donc j'ai surtout été très très curieuse, parce que c'est quelque chose que mes grands-parents, qui m'ont élevée depuis l'âge de 2 mois, ont toujours développé chez moi. Donc je posais plein de questions, j'allais chercher les réponses avec mes grands-parents. Voilà, j'étais une petite fille très curieuse et maligne qui faisait des bêtises.
Ok. tu disais que t'avais été élevée par tes grands-parents, c'est ça?
Oui, absolument.
Ok. Est-ce que t'avais déjà des accointances avec les sciences dès le plus jeune âge, comme ça? Comment s'est passé chez toi l'éveil à la matière scientifique d'une manière générale?
Ben écoute, ça s'est fait sous différentes manières, et c'est là où je me rends compte, en fait, c'est tout petit que ça se joue. Enfin, tu vois, c'est avant l'âge de 10 ans, parce que j'ai l'impression. Hein. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'avais des facilités en mathématiques, mais j'ai envie de dire, tu vois, les mathématiques que tu fais à 6-7 ans sont relativement simples. Hein. C'est tout simplement du calcul, en fait. Hein. Je fais même pas de géométrie, hein, pardon, c'est vraiment du calcul, de l'addition, de multiplication, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que mes grands-parents, mon grand-père en particulier, a toujours eu beaucoup d'appétence pour les sciences, et a, je pense, cultivé ça, ou en tout cas a fait en sorte qu'il n'y ait pas de mythe créé autour des mathématiques. Et je pense que, pour le voir moi-même avec mes amis et leurs enfants tout petits, c'est vrai que les parents ont tendance à projeter sur leurs enfants leur peur viscérale épidermique, en fait, des mathématiques. Et donc, alors qu'en fait, les mathématiques que tu sais tout petit sont pas très compliquées et que tous les enfants devraient comprendre. Donc je pense que moi, j'ai eu de la chance. Bon, j'avais des facilités, mais je pense aussi j'avais à la maison une sorte d'éveil aux sciences qui était particulièrement fort.
Et il a fait comment? Ça se concrétisait comment en particulier? C'était des jeux? C'était quoi?
Non, c'était pas des jeux. Ma grand-mère me posait des questions. Par exemple, quand tu avais la foudre, tu vois, elle me disait, mais qu'est-ce que c'est la foudre? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Ou par exemple, lorsqu'on allait à la mer et qu'on voyait les marées, je me disais, mais les marées, tu comprends pourquoi l'eau bouge comme ça? Et du coup, après, on répondait ensemble aux questions en allant chercher les réponses, soit parce que mes grands-parents les connaissaient et m'expliquaient, soit parce qu'on allait chercher la réponse ensemble. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on avait l'énorme encyclopédie qu'on posait sur nos genoux et qui était extrêmement lourde, ça, je m'en souviens. Donc c'est plus un éveil, c'est-à-dire que j'étais pas forcément initiée à des choses compliquées en sciences, mais j'étais initiée à un questionnement et du coup à un conditionnement pour être à l'aise avec les sciences. Et je pense que c'est pour ça que je pense que ça se joue assez petit à l'âge de l'enfant, quoi, tu vois, quand ils sont avant 10 ans, parce que c'est vraiment un âge où je vois les enfants qui sont en train de développer en fait une peur des sciences et des mathématiques en particulier. Parce que les sciences, c'est large, c'est aussi les sciences de la vie, tu vois. Mmh. Mais chose auxquelles aussi j'étais sensibilisée, parce que c'est vrai que, parce que quand tu vas dans la forêt, tu vois, on t'explique les fleurs, on t'explique comment un arbre fonctionne. Quand tu as un arbre qui a été coupé, on te montre pourquoi tu as des cercles dans le tronc de l'arbre. Voilà, des choses comme ça et qui, je pense, sont fondamentales pour l'épanouissement de l'enfant et pour qu'il puisse développer de l'appétence dans les sciences et aussi un certain esprit critique, quoi. Ça, c'est important. Parce que tu es toujours en train de remettre en question ce que tu observes. Donc, c'est bien.
C'est un bon cadeau qu'on t'offre en général quand tu finis par savoir faire ça de façon assez naturelle, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord.
J'entends bien sur ta petite enfance. Qu'est-ce qui fait que, au fur et à mesure, au collège, au lycée, tu finis par tu restes un peu dans cette vibe-là aussi, toi, de ton côté, à essayer de chercher, à creuser peut-être par toi-même de plus en plus en grandissant. Comment ça se passe?
Bah, écoute, oui, par la force des choses, parce qu'en fait, tu apprends de plus en plus de choses en cours. Moi, je sais que j'ai eu un gros changement quand je suis au collège, à partir de la quatrième. Je crois que c'est à partir de la quatrième que tu fais la physique chimie, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je sais plus. Ouais. Et je me souviens de m'être rendu compte, en fait, que les mathématiques, tu les utilises en physique chimie. Et qu'en fait, la physique chimie sert à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait aussi ça allait beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est pas seulement pour comprendre les choses juste en observant, tu vois, mais il y avait toute une théorie derrière, tu avais toute une des expérimentations. Enfin, moi, je me souviens, ça m'avait complètement marqué de voir en fait que tu pouvais que les sciences aussi, ça se touchait, quoi, et ça s'expérimentait. Et, moi, j'avais beaucoup aimé, quoi. Et puis après, au lycée, moi, j'ai jamais été une fan de l'école, faut le savoir, ça, de tout petit jusqu'au lycée inclus, parce que je me suis pas mal ennuyée. Et puis je me souviens que mes grands-parents me disaient toujours, il faut que tu fasses plaisir à ta maîtresse et à vous, donc il faut que tu aies des bonnes notes. Donc j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas. Et en fait, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et je défends l'école et elle a fait qui je suis aujourd'hui. Mais moi, j'ai vraiment aimé, en fait, apprendre, mais vraiment, tu vois, quand je suis rentrée à la fac. Parce que là, en fait, j'ai trouvé que c'était tellement passionnant. Enfin, et qu'en plus, on te responsabilisait en tant qu'étudiant, donc j'ai trouvé ça passionnant, quoi.
Qu'est-ce qui faisait que tu as préféré la fac au lycée? C'est plutôt l'aspect spécialisation, parce que si je ne me trompe pas, tu es rentré direct dans un cursus de maths, c'est ça?
Ouais, maths physique.
Maths physique, ouais.
Maths. Et non, je devrais pas dire ça, mais en fait, j'avais moins l'impression d'un cours catalogue. C'était un cours où tu allais creuser, où tu allais. Les études supérieures. Tout ce que tu vois, c'est les bases d'une discipline. Les vraies mathématiques, tu les vois après le bac. Le vrai français, tu le vois après le bac. L'histoire géo, tu vois vraiment ce que c'est après le bac. Tout ce que tu vois avant, c'est les bases fondamentales dont tu as besoin pour te construire. Tu vois. Donc c'est vrai que moi, j'ai découvert les mathématiques vraiment après. Parce que jusqu'au lycée, en fait, tu commences par du calcul, tu fais un peu de géométrie. Après, tu fais de l'algèbre linéaire, tu fais de l'analyse fonctionnelle. Mais en fait, les vraies mathématiques, les vrais objets mathématiques, tu les vois après. Donc tout ce que tu vois avant, c'est vraiment les bases, quoi. Tu vois, donc moi j'ai adoré découvrir ce qu'étaient vraiment les mathématiques après en allant regarder les espaces vectoriels, les ensembles, les tenseurs, les choses comme ça, qui sont des objets beaucoup plus abstraits. Et là j'ai adoré, quoi. Et vraiment. Et puis j'aimais bien aussi le côté responsabilité, c'est-à-dire que il fallait que tu travailles beaucoup, il fallait que tu apprennes plein de choses. Et qu'en fait, je trouvais ça passionnant, quoi. Je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'on apprenait.
Je vois bien comment tu peux être à la fois passionné et en même temps plongé dans un truc comme ça qui décide de te passionner à un moment donné. Est-ce que tu as déjà, toi, une idée à l'époque de ce que tu vas pouvoir faire concrètement de cet apprentissage-là?
Absolument pas. Et là, c'est vraiment ce que je dirais aux jeunes qui décident de faire des études supérieures, qui sont dans cette voie. C'est pas très grave. Enfin, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Je sais même pas ce que je ferai dans 5 ans. Donc, tu vois, mais je savais que je voulais faire des maths et de la physique. Ça, je le savais. Je savais que je voulais faire de la mécanique quantique, donc j'en ai fait un peu. J'ai fait des sciences informatiques en deuxième année, j'ai adoré. Après, je me suis tournée vers la mécanique numérique. J'ai toujours fait des choix en fonction de ce que j'aimais faire. Et ça, c'est fondamental. J'ai jamais réfléchi au métier que je voulais faire. Le seul truc que je savais, c'était, et ça, je l'explique dans le livre, c'est que moi, j'ai été extrêmement inspirée par mes professeurs d'université à Sorbonne Université, mais extrêmement. Après, j'ai rencontré des professeurs formidables à l'ENS et au MIM, mais c'est vrai que les profs que j'ai eu en première et deuxième année d'université m'ont marqué, quoi. Et je pense à des gens comme Lucille Julien, Claude Servien, Jean-Pierre Chessier, des gens qui m'ont vraiment marqué. Et c'est vrai que quand j'ai vu ma prof de physique, Lucille Julien, je trouvais qu'elle était profondément brillante. Et j'ai regardé ce qu'elle avait fait, et en fait, elle avait fait un doctorat en sciences que je ne connaissais pas. Tu vois, pour moi, le docteur, c'est médecin, donc je ne connaissais pas trop. Et, Et en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire comme elle, quoi. Sans véritablement savoir vers quoi ça me menait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois bien.
Mais j'avais compris, en fait, que c'était le plus haut niveau que je pouvais atteindre. Et je m'étais dit, bah, je ne peux que élargir le champ des possibles si je vais là, tu vois. Ça ne peut que se passer dans ce sens-là.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces profs en particulier, pour t'inspirer à ce point?
Parce qu'ils étaient passionnés. Parce qu'à l'université, comme dans les écoles, tu es face à des profs qui sont aussi des chercheurs. Après, avec différents niveaux d'engagement en fonction de leur situation dans le temps, parce que c'est des jeunes profs plutôt seniors, t'as pas les mêmes charges de travail, c'est pas les mêmes choses, quoi, tu vois. Mais j'ai trouvé à chaque fois, j'étais face à des gens passionnés. Et je me souviens aussi, en première année, j'avais un professeur de mathématiques dont je ne me souviens pas, non, absolument que je retrouve, hein, qui avait un nom russe et qui avait un théorème à son nom. Et ça m'avait fasciné, quoi. Enfin, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui font toujours le lien avec la recherche, avec le lien avec de ce qui se fait, des choses qu'on ne sait pas encore, tu vois, sur lesquelles on travaille, des choses qu'on a découvertes il y a peu de temps. Et puis, il y avait toujours aussi, c'est des gens qui recontextualisaient toujours la science dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire que, tu vois, chose que j'ai pas eu en fait au collège, et c'est sûrement normal, hein, c'est pas du tout dans la formation et tout, mais c'est vrai que j'ai découvert très tard en fait l'histoire de Pythagore ou de Thalès ou d'Euclide, et c'est un peu dommage parce que moi je suis très très intéressée par l'histoire des sciences, et ça je l'ai eu à l'université, les profs le faisaient raconter, tu vois, donc c'est passionnant.
Mais c'est sûr que d'un coup d'un seul, avec l'histoire en plus, ça prend d'autant plus de forme, de substance, quoi.
Ouais, et puis t'as du sens en fait à la discipline, encore davantage.
Alors j'ai l'impression qu'après après ton cursus de maths à l'université, t'as fait l'ENS, c'est ça?
Je suis rentrée à l'ENS en double cursus universitaire ENS. C'est-à-dire qu'à l'ENS, t'as deux manières d'entrer. Soit tu rentres par le concours classique après une prépa, soit tu rentres en fait après deux années de fac. Donc je suis en double cursus.
Et c'était quoi
En fait, t'as les mêmes cours, hein. C'est pareil, quoi. On ne fait pas la différence, quoi.
Ok, c'était quoi ton objectif pour quand tu rentres à l'ENS à ce moment-là?
Alors moi, je suis rentrée à l'ENS parce que sur les conseils d'un de mes professeurs, Jean-Pierre Chesté, mon professeur de physique en TD, en travaux dirigés. Moi, je connaissais pas bien les cursus. Quoi. Je connaissais que la fac, je connaissais la prépa, mais je voulais pas y aller. Pour moi, c'était la fac. Fin. Et en fait, mon professeur de physique m'a dit, écoute, Jean, franchement, t'es l'une des meilleures de l'amphi, voire la meilleure. Enfin, tu vois, il m'a dit, franchement, tente, essaie de faire un magistère. Donc le magistère, je sais pas si ça existe encore, mais c'était ce fameux double cursus où tu pouvais faire, tu étudiais à partir de ta dernière année de licence plus master, tu faisais tes trois années à l'ENS avec les normaliens, mais t'es pas normalien, donc t'es pas fonctionnaire, tu vois. Mais du coup, tu ne dois pas donner à l'État, vu que t'es pas payé, donc j'étais assez libre après. Mais donc, tu fais tes trois années à l'ENS, tu dois valider, donc tu dois avoir 12 de moyenne pour pouvoir valider chaque année. Et puis en fait, donc ça, l'avantage, c'est que c'est des cours qui sont assez intenses, et puis ça t'ouvre pas mal d'opportunités. Et du coup, moi, il m'avait dit, il faut que tu fasses un double cursus, tu choisis la matière que tu veux faire. Et il m'avait dit, pour ça, il faut que tu mentionnes très bien à ton bug et tout, donc j'avais bien travaillé. Et en fait, j'avais la possibilité d'aller à Ulm en physique ou à Cachan en méca, en mécanique. Et en fait, j'ai choisi d'aller à Cachan en mécanique. J'aimais les deux. En fait, la mécanique, c'est entre les mathématiques et la physique. Hein. Newton est un mécanicien. C'est utiliser le formalisme mathématique pour représenter le mouvement des corps, la déformation des matériaux, la déformation, la fissuration des structures. Enfin voilà, c'est la mécanique. C'est vraiment le mouvement des corps. En fait. Voilà. Et en fait, j'ai choisi la mécanique à Cachan parce qu'en fait, il n'y avait pas de filles. Et je trouvais ça pas normal. J'aimais les deux, hein. Donc franchement, j'ai fait un choix par rébellion, quoi. Et j'ai adoré, parce que j'ai adoré la méca, et je suis une vraie mécanicienne, pas d'origine.
Ok, et ça, alors c'est intéressant ce choix de te dire, il n'y a pas de filles, alors je vais y aller. L'un des gros freins, notamment dans les écoles d'informatique, etc., c'est que comme il n'y a pas de filles, les filles ont tendance à ne pas y aller. Et toi, tu as plutôt fait le truc inverse, quoi.
Ouais, mais en fait, moi, je pense avoir eu beaucoup de chance dans mon éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une petite rebelle, et mon grand-père disait toujours, plus tu pousses Aurélie à faire quelque chose, moins elle le fera. Mon grand-père, j'étais une petite rebelle, et mes grands-parents ont toujours insisté énormément. en me disant qu'il fallait pas que je pense à mon genre ni à ma situation, à mes origines sociales pour choisir, faire un choix quel qu'il soit dans ma vie. Et du coup, en fait, pour moi, c'était un acte de rébellion, quoi. Je me dis, bah non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de filles, quoi, tu vois. Enfin, il n'y a pas de filles, il y en avait, mais pas beaucoup, tu vois, j'entends, tu vois. Mais donc moi, c'était vraiment un acte de rébellion, quoi.
Ok. Et comment ça se passe là-bas?
Bon, ça se passe très bien, ça se passe très bien. En fait, il y a pas beaucoup de filles, hein. Moins encore que à Sorbonne Université dans mon cursus.
Ouais.
Mais non, ça se passe très très bien, quoi.
Ok. Ensuite, tu fais un doctorat, c'est ça?
Oui, après, j'ai candidaté, je pouvais continuer mon doctorat à l'ENS, donc après mes 3 années, faire 3 années plus. Puis en fait, moi, je voulais faire la mécanique des matériaux, la mécanique numérique des matériaux. Donc, c'est typiquement, tu développes des modèles mathématiques que tu implémentes dans des codes de calcul pour faire des simulations. Donc, c'est l'IA explicite ou implicite, hein, mm-hmm. apprentissage ou pas. Et en fait, moi, j'étais très intéressée par les matériaux. Et en fait, le meilleur programme était vraiment Mines de Paris, donc j'ai tenté, tu vois, parce que j'ai candidaté, donc j'ai pu intégrer les mines dans le doctorat, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire un doctorat. J'ai travaillé en fait sur la modélisation mathématique de la morphologie nanoscopique et du comportement élastique des matériaux mous de type caoutchouc.
Ok, waouh.
Voilà.
Et c'est quoi l'application exacte?
Alors, l'application, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est ça que j'adore, moi, c'est ce qu'on appelle la recherche orientée. C'est-à-dire, tu prends un problème concret et tu vas aller développer des sciences fondamentales pour essayer de résoudre ce problème concret. Il y a de fortes chances que tu ne le résolves pas parce que le problème concret est bien souvent assez complexe et que c'est difficile de le résoudre avec des sciences fondamentales. Tu vois, dès que tu as un problème concret et que tu passes par la recherche, en général, c'est que le problème est vraiment compliqué, quoi. Donc, mais je trouve ça passionnant parce que c'est de se développer des sciences fondamentales, ça te pousse à sortir de ce qu'on appelle le toy problem, c'est-à-dire que le problème type que tu vas essayer de résoudre, là tu prends un vrai problème concret, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc là l'idée c'était, si tu prends un pneu d'une voiture, par exemple, la gomme, donc le matériau noir, cette gomme, elle est, donc, c'est ce qu'on appelle un matériau mou parce qu'il se déforme à plus de 30% pour une force appliquée dessus, donc on considère que c'est un matériau mou. Et en fait, ce matériau, lorsque tu regardes à l'échelle nanoscopique, donc 10-9 mètres, tu vois en fait des petites particules de carbone dans une matrice élastomère. Donc les particules de carbone, c'est noir, c'est pour ça que la gomme est noire. Et en fait, donc moi, c'était une thèse qui était financée en partie par Michelin. Et en fait, ils étaient intéressés à savoir quel était le lien entre la géométrie, la morphologie en fait de ces particules à l'échelle nanoscopique et le comportement élastique du pneu. Donc c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Tu vois, parce que si tu avais voulu prendre ce qu'on appelle un toy problem, donc un problème type, tu vois, un problème joué, tu vois, ça aurait été de dire, bah, on prend un petit tube de caoutchouc et puis on va faire des essais dessus et puis on va regarder ce qui se passe à la chaîne nanoscopique. Là, on prenait vraiment un vrai problème. On a un pneu, le pneu, il plastifie au bout de temps, il peut fissurer au bout de tant d'années, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, en fait, donc, ce que j'ai fait, donc moi, j'ai travaillé à l'époque avec l'équipe de mécanique quantique, de physique quantique de Michelin. Il faut le savoir, il y a des physiciens quantiques chez Michelin, donc c'est assez passionnant. Et qui s'intéresse à toutes les petites échelles, même si 10-9, on n'est pas à l'échelle, de l'atome, hein, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas à l'angstrom, même plus bas. Et en fait, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, à partir d'observations nanoscopiques qui m'ont été fournies par ces physiciens, j'ai pu, en fait, essayer de regarder quelle était la géométrie du matériau à l'échelle nanoscopique. Donc, c'est des particules de carbone sphériques qui se regroupent sous forme de grappes, comme des grappes de raisin, avec une certaine tortuosité, donc certaines formes un peu plus ou moins tortueuses, tu vois, déformées. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un modèle mathématique pour représenter ces formes-là, pour simuler, en fait, des matériaux virtuels. Il y a plein d'approches. Moi, j'ai choisi cette approche. Et du coup, je pouvais, en simulant ce matériau à l'échelle nanoscopique, solliciter, tirer sur le matériau à l'échelle nanoscopique virtuellement, pour voir quelles étaient les conséquences à l'échelle macroscopique, tu vois, de ce qu'on appelle de l'homogénéisation numérique, c'est-à-dire que tu reproduis ce qui se passe à l'échelle macroscopique, tu le reproduis à l'échelle nano, et tu regardes ce qui se passe, tu vois, et après tu dérives les propriétés macro, et voilà, et donc c'était passionnant parce qu'on a même pu, j'ai sorti 3 papiers hein, sur ce travail, mais on a même pu démontrer quelque chose que les scientifiques, les physiciens de Michelin soupçonnaient. De ce qui se passait à l'échelle nano et qu'il n'avait jamais pu démontrer parce qu'en fait c'est difficile d'observer un matériau à l'échelle nanoscopique en mouvement. Enfin, c'est très compliqué.
J'imagine.
Et en fait,
ouais.
on a, on a réussi à démontrer en fait un truc, enfin démontrer, à observer, devrais-je dire, pardon, à observer quelque chose virtuellement qui existe dans la réalité, qu'ils pensent qu'il existe dans la réalité parce qu'ils n'ont jamais vu, mais ils le pensent sincèrement dû au phénomène physique à l'échelle nano. Et en fait, on l'a vu, donc c'était assez, assez rigolo, quoi.
Ok. Eh ben, c'est passionnant. Et en fait, t'as l'air passionné. C'est ça qui me rend aussi. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu un dénominateur commun de ton parcours. C'est que de mettre les sciences au service d'une application concrète, quoi.
Ouais, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que moi, les gens qui disent que la recherche, ça sert à rien, je leur dis, mais c'est parce que vous n'avez pas parlé avec des chercheurs. Ou alors, vous êtes des mauvais chercheurs. Parce qu'il y a aussi des chercheurs qui disent ça. Ils disent que oui, ce que je fais, ça sert à rien, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout ce que tu fais sert à quelque chose. Même quand tu travailles sur des choses qui te paraissent complètement, tu vois, quand les gens disent oui, si on n'avait pas fait de la recherche à l'échelle atomistique, on n'aurait pas eu de laser. Mais je pense que les gens qui travaillent à l'échelle atomistique essaient de comprendre, en fait, les énergies atomiques, essaient de comprendre, tu vois, les sollicitations à cette échelle, les particules élémentaires, les choses comme ça, savaient que ça pouvait avoir des conséquences. La preuve, c'est que Marie Curie, lorsqu'elle a travaillé sur, lorsqu'elle a fait ses travaux de recherche, ce qu'elle avait derrière la tête, c'était justement, par exemple, le traitement de tumeurs ou tu vois, des choses comme ça. Donc, il y a toujours un objectif qui est souvent irréalisable parce que c'est trop compliqué, mais tu sais qu'un jour, tout ce que tu vas faire va contribuer dans le futur à résoudre un problème concret. Et c'est ça, et je pense que c'est fondamental parce que c'est une manière, d'une part, de résoudre des problèmes qui sont encore bien plus compliqués. C'est aussi un moyen de raconter une histoire autour de sa recherche, d'expliquer à quoi ça sert, d'inspirer les plus jeunes et de faire que les gens s'intéressent à la recherche. C'est-à-dire tout le monde, tu vois. Tous les citoyens s'intéressent à la recherche, de qu'est-ce que c'est de faire de la recherche. Et c'est pas ne rien faire, tu vois. C'est pas la recherche. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas vraiment, tu vois. Quand ils pensent recherche médicale, et là, ils voient un intérêt énorme, forcément, parce qu'en plus, ils pensent souvent à recherche clinique, mais t'as aussi de la recherche fondamentale en médecine, hein, qui est vraiment très, très importante. Mais en fait, la recherche, elle est extrêmement importante, quoi, aujourd'hui.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu à contre-courant de, on va dire, les valeurs de notre société actuelle où on veut des résultats tout de suite et qu'on a besoin d'avoir des trucs très concrets là aujourd'hui. Où toi, tu dis, bah voilà, je peux peut-être éventuellement travailler en tant que chercheuse ou chercheur pendant une vie sans avoir vraiment d'application concrète, mais juste en se disant que tu vas léguer quelque chose qui va peut-être pouvoir servir dans 50, 100 ans, je ne sais pas quoi.
Exactement, sauf que après tu as différentes échelles de temps dans la recherche, dans les travaux que tu peux faire, tu as des choses qui vont apporter tout de suite, d'autres qui vont être du moyen et d'autres qui vont être du très très long terme. Mais cela étant dit, même quand tu travailles sur des choses qui sont complètement exploratoires, tu as toujours une idée au fond de toi de à quoi ça pourrait servir, au fond de toi. Et même si le à quoi ça pourrait servir, c'est par exemple comprendre ce qui se passe à l'échelle atomistique, bah ça c'est important, parce que si tu comprends mieux ce qui se passe à l'échelle atomistique, tu vas pouvoir mieux comprendre ce qui se passe aux échelles supérieures et donc à notre échelle. Tu vas pouvoir développer peut-être de nouveaux matériaux, tu vas pouvoir comprendre certains phénomènes physiques, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire.
Pour revenir un peu à ton parcours, après les mines, tu pars aux US, c'est ça?
Ouais, en 2009. Donc moi j'étais déjà partie aux US en 2003-2004.
Ok.
Pour un stage de recherche en Master 1. Donc, j'avais fait un stage à l'Université de Boulder au Colorado. J'avais adoré. Et toujours sur les conseils de mon prof de physique, c'était marrant, qui m'avait dit, il faut absolument que tu arrives à partir aux États-Unis faire un stage, ou à l'étranger, tu vois, pour faire un stage de recherche. Et moi, j'avais pas de moyens et mes grands-parents ne pouvaient pas financer. Les stages de recherche sont rarement financés, contrairement à des stages en entreprise. Et du coup, enfin, surtout à ce niveau-là, tu vois, on maîtrise le niveau de maîtrise, donc c'est Master 1. Et donc, j'avais réussi à avoir des bourses d'honneur pour partir.
Okay.
Je suis partie.
Pourquoi ils te poussaient à aller aux US, ton prof?
Pas les US, je me suis reprise, c'était fait attention, je me suis reprise. En fait, il m'avait dit, pars faire un stage à l'étranger.
Ok, d'accord.
Pour que tu vois ce que c'est la recherche aussi ailleurs, pour que tu vois. Et puis en plus, quand tu es en Master 1 à l'époque, si tu fais un stage, c'est soit un stage industriel, enfin en entreprise, peu importe où tu le fasses, tu vois, soit un stage de recherche, mais si c'était un stage de recherche, t'avais que tu le fasses à l'étranger. C'était un peu la règle.
Okay.
Donc lui, il m'avait dit le faire à l'étranger, et moi, j'ai choisi les États-Unis parce que j'étais déjà très à l'aise en anglais et je me voyais vraiment pas aller ailleurs que. Enfin, moi, j'étais vraiment attirée par les États-Unis. Et puis, Et puis, donc, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, moi, après ma thèse, je vais repartir là-bas. Mais j'étais partie en idée de partir un an, tu vois. Et en fait, je suis restée 9 ans en continu. Et depuis 2018, je vis entre les deux, pour des raisons personnelles. Mais c'est vrai que c'est, voilà, j'ai adoré, quoi. J'ai d'abord, c'était en 2008, donc c'était la crise.
Oui, la crise des subprimes, ouais.
2008, la crise 2009, crise économique aux États-Unis, il n'y a pas de job, enfin, c'est une catastrophe, quoi. La recherche n'allait pas bien. Enfin. Et moi, je me dis, bah, je vais tenter quand même. Et en fait, ça a mis du temps, mais j'ai quand même eu plusieurs propositions. Il y en a une qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, c'était une équipe médicale qui me proposait de venir travailler pour eux, pour appliquer mes modèles au tissu mou, mais humain, cette fois, et au tissu du cœur. Au muscle cardiaque et à la valve aortique, plus particulièrement, aux valves aortiques.
Ok.
Et du coup, voilà.
Donc tu veux dire, excuse-moi, mais tu veux dire les modèles sur lesquels tu avais travaillé sur les pneus, c'est ça?
Ouais, exactement.
Ok.
On pouvait, alors, je les ai travaillés, je les ai modifiés.
Oui.
Tu vois, je peux pas
J'imagine.
Les utiliser comme ça, mais en tout cas, la base, elle était pas pour ce médecin, pour ce professeur, il me disait, mais tu sais, moi, quand je vois tes particules de carbone, c'est comme des cellules cardiaques, en fait. Bon, elles s'engouffrent pas en grappe, ça marche pas comme ça, mais il me dit, t'as deux éléments principaux dans ton matériau, dans le muscle cardiaque, t'as plein de choses, mais t'as entre autres des cellules et du collagène, tu vois. Donc il me dit, je suis sûre qu'on peut arriver avec ces modèles à essayer de mieux comprendre comment on peut régénérer un tissu du muscle cardiaque en laboratoire pour réparer un muscle malade après un infarctus. Et donc, c'était à l'Université d'État de Pennsylvanie, à State College, en Pennsylvanie, donc. Et donc, voilà, il s'appelait le professeur George Engelmeyer. Donc, c'est lui qui m'a donné ma chance. Et j'en remercie infiniment. Et voilà, j'ai fait deux années extraordinaires, quoi. Enfin, extrêmement productives. Rien n'a été gâché, tu vois. C'est impressionnant, ce prof. C'était un jeune prof, donc il démarrait, donc il avait besoin de que tout fonctionne vite. Mais j'étais impressionnée par l'efficacité de ce professeur, quoi. Impressionnée.
Ok. Qu'est-ce qui t'a appris, en fait? J'ai la sensation qu'il t'a appris plein de choses.
Bah, il m'a appris, en fait, à chaque fois, parce que quand je fais quelque chose, faut toujours que ça s'inscrit dans une production. C'est-à-dire, si je fais un calcul, c'est réfléchir qu'est-ce que va apporter ce calcul, d'une part sur la compréhension, est-ce que je peux l'exploiter dans un papier, est-ce que je peux l'exploiter en conférence, est-ce que tu vois. Donc il est très, tu vois, il était très, c'est normal, c'était un jeune prof, donc il fallait absolument qu'il publie, qu'il aille en conférence, et donc c'était très, moi j'ai beaucoup aimé, il m'a appris à écrire un papier aussi. Ça, je ne l'ai pas appris en thèse, c'est-à-dire que j'ai fait trois papiers en thèse et je les ai fait un peu, c'est pas facile, tu vois. Et en fait, moi j'ai vraiment appris à écrire un papier scientifique grâce au professeur George Engelmeyer et plus tard au MIT grâce au professeur Raoul Radomski, qui sont deux profs qui m'ont vraiment appris à écrire, quoi.
Ok.
À écrire, voilà, autant comment présenter des résultats scientifiques, comment attirer un maximum de gens à lire ce que tu écris, comment raconter une histoire autour de du problème que tu as à résoudre. Voilà, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
Ok. J'allais te demander, c'est quoi exactement la. Parce que c'est une question de nous, mais c'est quoi exactement les spécificités d'un papier scientifique comme ça? Tu disais notamment le fait de raconter une histoire, c'est ça?
Ouais, en fait, il y a plusieurs manières de voir. Je te dis ça parce que j'ai longtemps résumé des papiers, relu des papiers scientifiques pour des journaux. Tu sais, tu dois relire les papiers de tes pairs, tu vois.
Ouais.
Tu relis anonymement et tu évalues, en fait, la voilà, si l'étude est bonne, voilà. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'avais appris à écrire un papier avant qui était très factuel. Tu présentes le problème, les méthodologies, les résultats, conclusions, voilà. Et en fait, c'est pas très marrant à écrire un papier comme ça. Et surtout, c'est pas très fun à lire, tu vois. Et j'en ai lu beaucoup des papiers comme ça aussi. C'est ça que je, tu vois, ça me. Et en fait, moi, mes profs m'ont appris plusieurs choses. Ils m'ont appris à commencer à écrire le papier pendant que je faisais mes calculs, parce qu'ils me disaient. Si tu écris ton papier une fois que tu as fait tous tes calculs, tu n'as pas assez de recul sur ton papier lui-même. Mm-hmm. Si tu écris ton papier pendant que tu fais tes calculs, ça va te donner plein d'idées aussi sur les calculs à réaliser en plus pour pouvoir alimenter davantage ton papier. Donc en fait, j'ai appris ça. Et c'est vrai que le papier à la fin est assez différent, il est beaucoup plus argumenté. La deuxième chose que j'ai appris, comme tu l'as dit, c'est raconter une histoire. Alors c'est quelque chose qui est pas forcément très bien vu dans notre culture parce que c'est du storytelling, hein. Mais moi je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental pour deux choses. C'est d'une part, donc raconter l'histoire, c'est Dans mon cas, par exemple, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu as fait à Penn State en recherche, je dis bah moi j'ai travaillé sur l'amélioration d'une technique de croissance, de génération, de régénération d'un tissu de muscle cardiaque en laboratoire. Ça, c'est une histoire. Tu vois, je ne commence pas à dire oui, alors moi j'ai. Et d'ailleurs, c'est le point parce que ma thèse, j'arrive pas à l'expliquer autrement que quand tu vois, j'arrive pas. Enfin, tu vois, quand je te dis finalement ce que j'ai fait en thèse, je te dis bah j'ai fait de la morphologie mathématique, mais j'arrive pas à raconter une histoire. Ouais. Je n'arrive pas. Tu vois, je l'ai pas appris à ce moment-là. Alors que là, moi, je vais dire bah voilà, je j'aide des médecins à améliorer la technique de régénération d'un muscle cardiaque en laboratoire. Et en fait, ce que je fais au quotidien, c'est des maths, c'est des simulations, c'est tu vois, c'est de la microscopie à fluorescence, c'est de l'analyse d'images à grande échelle, tu vois. Et en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est essayer de raconter la problématique, le pourquoi tu fais ça. Mm-hmm. Et même quand tu racontes les méthodologies, c'est d'expliquer comment tu es arrivé à utiliser cette méthode plutôt qu'une autre. Tu vois. Donc, c'est vraiment, et je trouve que c'est fondamental parce que ça rend ton papier beaucoup plus agréable à écrire et à lire. Et puis c'est bête, mais moi c'est un truc que j'ai réutilisé, alors toujours grâce à mes profs, hein, dans mes cours en fait. Moi j'ai commencé à enseigner quand j'ai un tout petit peu enseigné en thèse, mais un tout petit peu, tu vois. Mais j'ai surtout, je me suis bien amusée à enseigner quand j'étais au MIT, et c'est vrai que moi ça m'a aidé ça, tu vois, parce que les élèves il faut leur raconter des histoires aussi à l'instar de mes professeurs de physique et de mathématiques à Sorbonne Université, qui m'ont raconté des histoires autour des scientifiques qui avaient écrit telle ou telle théorie, tu vois. Donc c'est comme ça que tu marques en fait les jeunes.
Ouais, c'est passionnant.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et c'est intéressant en fait de se dire, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui cette technique-là est arrivée en France depuis le temps ou...
Alors c'est difficile je pourrais pas faire de généralité parce que je pense que ça dépend vraiment d'un prof.
Ça dépend des profs, ouais.
Ouais, je pense. Parce que moi je connais plein de chercheurs qui le font vraiment très bien. Après je pourrais pas faire de généralité parce que je connais plus le milieu recherche quand même américain, mais c'est vrai que t'as quand même des gens, tu vois, en France qui sont souvent les plus grands storytellers en science, sont aussi de grands vulgarisateurs. Et je déteste ce mot vulgarisateur, vulgarisation, parce que c'est un mot qui est pas joli, il y a vulgaire dedans, tu vois, et je comprends pas pourquoi on utilise ce mot. Moi j'aime bien démocratisation, enfin, et tu vois, je pense par exemple au professeur Étienne Klein qui dirige un laboratoire au CEA, au commissariat d'énergie atomique, et c'est un grand physicien, et c'est un grand vulgarisateur. Il a fait plein de livres pour comprendre. Moi, je lis ses livres depuis l'adolescence, quoi. Et c'est grâce à des gens comme Étienne Klein qu'on va pouvoir déclencher des vocations chez les plus jeunes. Moi, j'en suis persuadée, quoi.
Ou comme toi.
Oui, ouais.
Non, mais parce que tu as aussi une façon de raconter ton histoire qui est hyper intéressante et je pense aussi inspirante. C'est pour ça, enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans mon podcast, en fait. C'est que je pense que ce discours-là gagne à être connu. L'un des trucs qui me fascine aussi chez toi, c'est que donc t'as fait tout ce parcours de recherche, etc. Et en fait, si je me trompe pas, il y a un moment donné où t'atterris dans une application plus concrète chez Bloomberg pour faire des algorithmes, mais là pour la finance, oui, cette fois-ci.
Oui. En fait, c'était au bout de 7 ans de recherche dans le domaine médical, parce que quand j'étais au MIT, je travaillais aussi dans le domaine médical. J'ai continué sur le cœur, cette fois sur les valves. Aortique, et j'ai travaillé sur le cerveau et aussi sur l'os spongieux. Et en fait, au bout de 7 ans, moi, ma dernière au MIT, j'ai adoré mes années au MIT, adoré mes années de recherche, mais c'est vrai que la dernière année, j'ai passé plus de temps à écrire des proposals pour avoir de l'argent qu'à faire de la recherche moi-même. Je commençais un peu à tourner en rond, donc j'avais besoin de faire autre chose. J'avais candidaté pour avoir un poste de prof. J'ai eu 2 offres que j'ai déclinées parce que c'était dans des endroits aux États-Unis où je me voyais pas. Tu vois, je voulais vraiment être dans des grosses villes, quoi. Donc j'ai préféré pas prendre. Et donc, c'est vraiment des raisons personnelles. Et puis après, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à me dire ce que je veux faire, j'ai rien changé, touché à autre chose. Et au même moment, tu vois, Bloomberg m'a chassée pour... Enfin, j'avais été chassée par plein de boîtes, en fait. Enfin, il y avait Tout Sigma, Blackstone, Bloomberg, Google, Facebook, tu vois. Et en fait, moi, j'étais très intéressée par Bloomberg parce que je trouvais ça intéressant le domaine financier économique. Et moi, je leur ai bien dit, moi, j'y connais rien du tout à la finance, tu vois, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, ça, vous allez apprendre, tu vois. Et donc, j'ai passé les entretiens. Donc, les entretiens, c'est comme dans toutes les boîtes tech, en fait. Parce que Bloomberg, les gens pensent que c'est un journal, tu vois, un média, mais c'est avant tout 80% de leurs revenus viennent, en fait, de tout ce qu'ils font côté data, financière, algorithmique, modèle, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qu'ils vendent, en fait. Ils vendent des logiciels, tu vois. Ils vendent un logiciel, en l'occurrence. Et du coup, moi, j'ai passé les entretiens. Donc, c'est typique, hein, tu vois. T'as les entretiens de maths, t'as les entretiens de code. Enfin, c'est vraiment que des entretiens assez challenging. Et puis, j'ai eu le dernier entretien qui était une journée, entre autres, hein, une journée sur place où, en fait, je démarre le matin avec un problème à résoudre. Et à la fin de la journée, il faut que j'ai écrit un algo, que je le présente, que je l'ai implémenté, que je l'ai testé et que j'explique pourquoi cet algo est bien. Et en fait, à l'issue de cet exercice, en fait, bah, j'ai été retenue. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie à Bloomberg. Et c'est très rigolo parce que donc je suis restée presque 2 ans là-bas. J'ai d'abord travaillé dans l'équipe d'equity, donc travaillé sur les marchés publics, donc la bourse, ouais, pour aller essayer de caractériser le meilleur consensus des analystes financiers qui font des estimations sur l'évolution des stocks. Et puis après, j'ai travaillé en fait dans l'équipe de Key Insight, où en fait l'idée c'était de développer des modèles qui allaient capter les signaux faibles dans les flux de données officielles économiques et financières pour aller, entre autres, alerter le journaliste économique et financier d'un changement inhabituel ou en tout cas qui avait été vu dans le passé, donc il y a aussi de l'apprentissage dans tout ça pour aller voir ce qui se passe dans le passé. Et puis, il y avait de la génération, donc je générais un petit article, un titre, une phrase, pour mettre la news tout de suite dans le logiciel, tu vois, pour que les gens puissent la lire.
Okay.
Et voilà. Donc c'était très, très rigolo. Et c'est vrai que c'était très différent. Je vais pas te mentir, je me suis très vite ennuyée aussi. Ouais. Parce que, et je remercie beaucoup mes managers, j'ai eu 2 managers formidables.
T'es resté presque
2 ans.
Ok, d'accord.
Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, ils m'ont donné un énorme projet, j'ai adoré, où je devais, tu vois, j'étais en charge avec 2-3 autres personnes d'aller réécrire tout le code propre à l'analyse des marchés. Donc là, on s'est vraiment marré, c'était vraiment chouette. Mais après, c'est vrai qu'on a eu... Après, je me suis vraiment ennuyée parce que, tu vois, ils avaient un peu atténué le projet. Après, c'est là où j'étais dans l'équipe de Key Insight. Mais en fait, quand tu passes du MIT où tu as 11 projets en parallèle, ce qui est beaucoup trop, hein. Enfin, je dis pas, hein. Un truc où en fait, tu as des projets les uns derrière les autres. Moi, je me suis pas mal ennuyée à un moment donné. Et c'est vrai que je remercie mes managers Ryan Flannery et Arvind Sen parce qu'en fait, ils ont tous les deux... Ils m'ont énormément soutenu, quoi, tu vois. Et quand je leur ai dit, tu vois, que je m'ennuyais et que moi, j'avais besoin, parce que entre-temps, j'avais monté ma boîte, j'avais pas dit ça aussi,
okay,
qui avait été validée par Bloomberg, tu vois, donc je pouvais tout faire, sauf travailler pour des banques, des fonds d'investissement, parce que normal, tu vois, pour des questions de conflit d'intérêt.
Ouais.
Et donc, c'est une boîte de conseil. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, il faut que je me lance, tu vois, il faut que je fasse cette boîte, il faut que je me lance à fond. Et en fait, ils m'ont hyper soutenue, quoi. Et je les ai adorés. Et d'ailleurs, j'ai revu Arvind. Dès qu'il passe par Paris, il m'appelle, on se prend un café. Et voilà, il est très fier. Et c'est des gens formidables, quoi. Vraiment, ils m'ont beaucoup appris.
Est-ce que tu as la sensation qu'ils t'ont aussi peut-être libéré aussi, quelque part ?
De quel sens ?
Bah, en fait, je pense que l'un des trucs... Enfin, je ne sais pas trop si c'était ton état d'esprit, mais je pense que l'un des trucs qui est compliqué aussi, c'est à un moment donné de se dire « Ok, j'ai monté ma boîte et je suis en train de démarrer mon activité. Il faut que je me lance. » Et je ne sais pas à quel point tu as eu besoin d'un « coup de main » entre guillemets de leur part. C'était ça que tu voulais dire par l'aide qu'ils t'ont apporté ?
Non, mais en fait, je me suis lancée en disant « J'ai pas le choix. » Tu vois, je m'ennuyais et okay, je me suis dit « Je peux pas. » Tu sais, à l'époque, j'avais 35 ans et je me suis dit « Je m'ennuie. » Si je veux vraiment lancer ma boîte à fond, c'est soit maintenant, soit dans 10 ans, parce que tu vois, enfin, tu vois, 35 ans, c'est un âge où tu dis, bon, bah, faut que je me lance, quoi, tu vois. Sinon, tu te lances bien plus tard, enfin, tu vois, parce que après, t'as ta vie, t'as ton rythme, enfin, ça, c'est toujours, c'est pas facile, quoi. Donc, je me dis, faut que je me lance, allez, je suis jeune, faut que j'y aille. Et non, surtout, moi, moi, je les remercie parce qu'ils m'ont beaucoup, moi, j'ai appris plein de choses avec ces gens. Ryan, qui est lui, a fait une thèse en physique.
OK.
Donc, c'est mon manager. T'avais que des scientifiques, des anciens docteurs, enfin, les docteurs, tu vois, donc c'était assez passionnant, les gens que j'ai rencontrés. Même mes collègues, tu vois, moi, j'ai, la dernière équipe dans laquelle j'étais, il y avait près de 50 personnes et j'étais la seule nana, la seule fille, en fait, technique. Ouais. Tous les autres, c'était des garçons, mais c'était une équipe, mais géniale, quoi. Ils m'ont chouchoutée, ils ont été adorables, ils ont tellement été des super soutiens. À un point, c'est quand je suis partie, ils ont fait des yeux, une bouche, machin, et puis ils m'ont mis, en fait, sur le bureau, et ils m'ont dit, tu seras toujours là, Aurélie. Donc, c'était très mignon, quoi. Donc, c'était très mignon. Mais moi, je leur dois beaucoup, et puis, voilà, et Ryan et Arvin, je leur dois beaucoup, parce qu'en fait, ils m'ont tout appris de la finance, de marché, ils m'ont appris plein de choses aussi, technique, parce que moi il y a des choses que je ne connaissais pas, tu vois, quand je suis arrivée à Bloomberg, donc j'ai appris aussi des choses, c'était énorme. Moi je leur dois beaucoup, quoi. C'est des très très bons managers.
J'ai un peu la sensation que cette expérience t'a un peu fait basculer dans l'aspect business, c'est ça?
Ça, je sais pas si c'est lié à Bloomberg, parce que tu sais, quand t'es à Bloomberg, t'apprends pas le business, hein. Tu sais, tu t'apprends un minimum sur les marchés, ce que c'est une IPO, des choses comme ça, l'indice économique d'un pays pour pouvoir les manipuler dans tes modèles, mais
okay.
Et tu t'apprends pas le business, hein. Moi, je pense que je serais horrible pour faire un portefeuille d'investissement, hein. Enfin, c'est pas mon métier, hein. Oh là là.
Non, ce que je voulais plutôt dire, c'était que ça t'a peut-être mis dans une application de ton boulot qui était plus tournée vers le business et moins vers la recherche.
Ah, alors oui, parce que moi, je ne faisais pas de recherche à Bloomberg. Je faisais vraiment que du développement, même si on a fait des trucs quand même très... tout ce qui était... quand j'étais chez Key Insight, c'était vraiment une équipe particulière parce que c'était très, très en amont. Tu vois, c'est beaucoup moins applicatif que le reste de Bloomberg. Mais en fait, je me suis rendu compte avec cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de faire les choses et que j'avais décliné ces deux postes de prof que j'avais eu, je me voyais pas, tu vois, recandidater pour un poste de prof, ça m'intéressait pas, et puis je voulais pas, tu vois, passer ma vie à essayer de trouver de l'argent, enfin je me sentais pas trop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, il y a plein de manières de réussir. Après, j'ai pas calculé, tu vois, c'est aussi un peu au doigt mouillé, j'ai envie de dire, comme disant, allez, ça marche, ça marche pas. Mais si tu vois, tu calcules pas non plus, quoi. Mais c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire des algos, j'aime écrire. Parce qu'il y a ça aussi, moi, quand j'étais à Bloomberg, je pense en live, hein. Mais quand j'étais à Bloomberg, en fait, il y a des choses que j'ai dû arrêter de faire. Par exemple, quand j'étais au MIT, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Et j'ai enseigné aussi, donc écrit parce que j'écrivais des papiers scientifiques, mais aussi parce que j'écrivais dans des blogs de copains. Tu vois, de copains scientifiques, j'écrivais sur les sciences, tu vois, des articles de vulgarisation. Et ça, je pouvais plus trop le faire quand j'étais à Bloomberg parce que tu vois, c'est comment dirais-je, parce que vu que tu es à Bloomberg, tu vois, la communication de Bloomberg, fais attention à ce que les gens font à côté et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois.
Okay.
Et en fait, donc ça m'avait manqué et l'enseignement me manquait. J'enseigne pas beaucoup, hein. J'enseigne 20 heures par an, c'est rien, quoi. Mais en fait, ça me manquait parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien préparer un cours, j'aime bien le donner, j'aime bien avoir un retour, tu vois. Et en fait, donc c'est des choses là comme ça qui me manquaient. Je me dis, mais en fait, je peux faire plusieurs choses. Je peux essayer de faire l'enseignement, j'adorerais faire quoi. Enfin, toujours pareil, je réfléchis à qu'est-ce que j'aimais faire. J'aime enseigner, j'aime faire de la recherche, j'aime faire du développement algorithmique, tu vois, du développement très appliqué. J'aime écrire. Et en fait, donc la recherche, je mets beaucoup plus de temps à réactiver, hein. Ça fait seulement, tu vois, un an, moins d'un an que je me suis remise. Et donc, c'est parce que ça te fait pas gagner d'argent. Donc, c'est un peu le truc que tu mets à la fin lorsque tu dois te lancer. Et puis, c'est vrai que, après le conseil, ça a très bien marché assez vite. Tu vois, au bout de 6 mois, j'ai eu des bonnes missions. J'avais déjà une première mission à New York. Et puis l'enseignement, j'ai commencé. J'ai quitté Bloomberg en octobre 2017. J'ai commencé au printemps 2018. J'avais mon premier cours.
Ok.
Tu vois, donc en fait, après, tu vois, mais j'ai pas vraiment calculé. Tu vois, si tu m'avais dit, comment t'as fait pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, j'ai surtout fait. Je sais que c'est naïf, hein. Je m'excuse, hein, mais j'ai vraiment fait. Je fais les choses parce que je les aime, en fait. Tu vois. C'est-à-dire mais que moi,
non, c'est pas naïf.
Et c'est marrant. Et tu vois, et non, mais c'est marrant parce que moi, à l'époque, je me souviens que les gens, tu vois, que je croisais, je leur dis, bah, j'ai envie de faire de l'enseignement, j'ai envie de faire la recherche, j'ai envie de faire du conseil, j'ai envie d'écrire. Et les gens me disent, bah non, tu peux pas tout faire.
Mm-hmm.
Bah si, je peux tout faire. Tu vois. Et ça m'aurait, en fait, ça m'a fait un peu mal, tu vois, de devoir arrêter d'enseigner et d'écrire hein, quand je suis arrivée à Bloomberg. Et je pense que, tu vois, j'ai pas envie de faire que de l'enseignement. Mmh. J'ai pas envie de faire que écrire, j'ai pas envie de faire que de la recherche, j'ai pas envie de faire que du développement algorithmique en conseil, j'ai pas envie, tu vois. Mais j'ai envie de faire un petit peu de tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de le garder parce que c'est comme ça que je m'épanouis, en fait. Tu vois.
Je vois bien. Et en fait, c'est un très bon conseil, je pense, pour les gens qui nous écoutent. La meilleure façon d'être bien, c'est de faire les trucs que tu as envie de faire et surtout de réussir, je pense, parce que c'est sans oui. doute l'une des raisons qui fait que tu t'en sors, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je sais que ça peut paraître naïf, mais moi j'y crois vraiment.
Mais c'est pas naïf hein, pour
fait,
moi.
Bon, voilà, faut vraiment réfléchir à ce que on aime faire. Tu vois, faut pas réfléchir à ce que les gens attendent de toi. Faut pas, parce que en toute objectivité, tu pourrais me dire, bah attends, Alice, t'étais au MIT, les gens attendaient de toi que tu restes. Attends, t'étais à Bloomberg, dans un super poste à New York, t'es super bien payé, les gens attendent que tu restes. Faut pas réfléchir comme ça en fait. Faut réfléchir à ce que toi tu aimes. Tu vois. Et pour moi, c'est vachement important, ça. C'était libre, du coup.
Ouais, ouais. Et t'avais pas la sensation que. Et t'avais pas, comment dire. T'avais pas de pression de la part de tes pairs, justement, qui te disaient, mais faut pas que tu bouges de là. En fait, une fois que tu es au MIT, faut que tu y restes. Non. C'est prestigieux,
alors, en
etc.
Fait, non, parce que tous les gens. Moi, j'ai tous les gens que j'écoutais, c'était des gens que j'appréciais, que c'était des amis aussi, tu vois.
Mm-hmm.
Que ce soit mes pairs au MIT, que ce soit mes collègues à Bloomberg. Tu vois, mes managers, ils voulaient pas que je parte parce qu'ils voulaient que je reste pour eux. Mais en fait, ils m'ont dit, mais faut que tu partes parce qu'en fait, tu vas t'ennuyer et mm-hmm. qu'on va te perdre de toute façon. Tu vois. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était vachement sain. Tu vois. Et oui, j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit, mais non, mais tu vas pas quitter Bloomberg. Ce n'étaient pas des amis, hein, je précise.
Ouais.
Tu vois, qui m'ont dit, mais tu vas pas quitter Bloomberg, tu te rends pas compte, t'as la chance que t'as, il y a combien de personnes qui veulent avoir ce poste. Et je pense que ces personnes-là, je ne les ai jamais recroisées, tu vois, parce que je pense que c'est pas bien de dire ça. Il faut pas faire les choses en fonction de ce qu'on attend de toi ou en fonction d'un certain consensus objectif. Non, tu fais les choses parce que tu les aimes. Et puis moi aussi, pour des raisons extrêmement personnelles, ce qui m'a aussi fait passer le cap, c'est que j'avais quelqu'un dans ma famille qui est tombé malade et dont je voulais m'occuper, je voulais être proche. Donc c'est ça aussi qui m'a fait dire, voilà, moi j'avais les papiers américains donc je pouvais aller voyager comme je voulais. Je me dis bah je vais passer la moitié du temps en France pour être avec cette personne et je savais pas comment ça allait tourner, tu vois. Je me dis bah je sais pas, mais on va y arriver.
Okay.
Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment ça va fonctionner, et tu vois, et aujourd'hui quand je vois comment ça fonctionne, je me dis bah c'est bien, j'ai réussi, je sais pas comment j'étais mais ça a marché. Voilà,
parce que t'as suivi tes tripes, j'ai un peu l'impression.
Exactement, ouais. Et c'est ce que j'explique, tu verras dans la conclusion de mon livre, hein, c'est la dernière phrase que je dis, c'est-à-dire que l'algorithmique, tout l'aspect rationnel, moi je suis très très rationnelle, tu vois, j'essaie toujours de trouver une relation cause à effet, une raison aux choses. Et en fait, j'ai réellement écouté mon cœur le jour où j'ai quitté Bloomberg et que je me suis dit, il faut que je me lance et qu'il faut que j'habite entre les deux pays. Parce qu'en fait, c'était pas rationnel, en fait. C'était vraiment de quoi j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'être proche de cette personne, de ma famille, et j'ai besoin d'être libre intellectuellement, de pouvoir faire ce que je veux, voilà. Et je le dis à la fin, je dis, bah, moi, je m'en suis dit, il faut aussi écouter son cœur, et moi, je ne l'ai appris que récemment.
Et bah, bravo. et c'est ça aussi qui t'incite à donc écrire ce livre. Parce que, effectivement, de la part d'une scientifique, si tu veux, on se dirait pas, bah, tiens, let's go, mets-toi devant ton ordinateur et écris un bouquin, notamment un bouquin sur ton rapport, enfin, d'une manière générale, ton rapport, toi, en tant que femme, autour des algorithmes et de ce que les algorithmes peuvent apporter à la société. C'est ça qui t'incite à te lancer à l'époque?
Alors, pour reprendre un peu la genèse du livre, moi, jamais j'aurais cru que j'allais écrire un livre. Tu vois, ça faisait pas partie des trucs de tiens, j'aime écrire un livre. Non, parce que je sais pas ce que c'était. J'avais écrit que des articles, donc très différents. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc Gaspard Koenig. À l'époque, j'étais toujours aux États-Unis. C'était en octobre 2017. Donc, je le rencontre J'étais de passage pendant 2 semaines à Paris et pour une conférence organisée par Le Point. Et en fait, je le rencontre à une table ronde et après on déjeune ensemble. Ça se passe bien. Il me parle en fait de son prochain livre sur l'IA, qui est d'ailleurs sorti un peu avant le mien, tu vois, qui s'appelle La fin de l'individu. Okay. Et en fait, il me parle de l'IA, des gens qu'il devrait rencontrer. Moi, j'ai dit, je connaissais des gens aux États-Unis, je les mets en contact, tout ça. Et puis, donc, je rentre aux États-Unis et là, je reçois un message de Gaspard, un email disant, écoute, moi, j'aimerais bien que tu écrives dans ma collection, parce qu'il avait une collection. Il a une collection chez l'Observatoire qui s'appelle De facto. Okay. Et qui, en fait, demande à des gens d'écrire un livre sur leur histoire de façon à ce que les gens puissent apprendre de leur histoire à travers une narration chronologique. Et donc du coup, il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu parles en fait des algorithmes, de comment tu les as appris, comment tu les as appliqués, les questionnements que tu en as eu, et puis d'avoir une réflexion contemporaine de ce que tu vois aujourd'hui et de d'où on va. Et du coup, moi, j'ai fait des tests. Alors, des tests, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui ai donné un plan, je lui ai écrit une introduction, un chapitre. Et de là, Gaspard, ça a mis longtemps, hein, ça a mis 6 mois avant que je signe le contrat parce que moi, j'avais pas écrit le livre. Donc, il m'a dit, bah non, ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on écrit un livre. Il dit, je vais t'expliquer. Donc, il m'a expliqué au début, et il m'a dit, bah non, faut pas faire ça comme ça, il faut faire ça comme ci, machin. Et du coup, je lui ai réécrit, tu vois, l'introduction, je lui ai refait un plan et je lui ai fait un chapitre. Et il m'a dit, c'est bon, bingo, on y va. Du coup, il a présenté ça à la maison d'édition. Ça a été validé. J'ai signé le contrat, il y a 2 ans exactement. Et puis, donc, me voilà parti. Il fallait que j'ai rendu le manuscrit 1 an et demi après. Et le livre est sorti 3 mois après que j'ai rendu mon manuscrit. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Parce que je trouvais ça rigolo j'aimais beaucoup l'idée de les gens vont apprendre ce qu'est un algorithme en suivant mon histoire dans mon propre apprentissage. Mm-hmm. Et d'ailleurs, même au début, tu vois, le lecteur est amené, s'il le souhaite, à écrire à la main l'algorithme que moi-même j'ai écrit à la main à 19 ans pour la première fois. Tu vois. Mm-hmm. Et pour moi, c'était important que le lecteur ait la possibilité de le faire avec moi. Et donc, je trouvais ça très rigolo à faire. Et voilà, et puis je suis vraiment contente parce que, en fait, moi, je l'ai fait au départ pour expliquer ce que c'était et pour développer l'esprit critique des gens par rapport à cette science, parce que c'est une science, l'algorithmique, l'intelligence artificielle, mais en fait, l'IA, derrière, t'as des algos et de la data. Hein, donc, c'est ça qu'il faut dire. Et puis, voilà, c'est en sorte que les gens comprennent, se posent des questions, que ça déclenche des vocations aussi, mais mon but premier, c'était vraiment expliquer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le livre a eu un énorme impact auprès des adolescents et des parents qui l'avaient du coup acheté pour leurs enfants. Et moi, j'ai eu plein de messages d'adolescents disant que ça leur avait donné confiance, tu vois, pour continuer dans les sciences, ça leur donnait envie de continuer, ça leur donnait envie de faire des sciences informatiques. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, je n'avais pas prévu ça, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment chouette.
C'est vrai que tu ne l'avais pas prévu?
Non, du tout. Pour moi, c'était vraiment, j'explique. Ouais.
Mais tu ne pensais pas que ça pourrait servir d'inspiration, c'est ça?
Non, oui, parce que je me dis, un livre, je sais pas, je l'avais pas vu comme ça pour moi. Alors maintenant, ça paraît évident, tu vois, mais à posteriori, tu peux toujours dire, oui, j'avais très bien vu. Mais en fait, non, moi, je l'avais pas vu du tout, quoi. Tu vois, moi, c'est vraiment expliquer, quoi. Expliquer, tout simplement.
Maintenant, parce que je pense que tu racontes une histoire, et pour moi, en plus, il y a un truc qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'algorithmes dans nos vies, on va en avoir de plus en plus, ne serait-ce que tu prends plein d'exemples, mais tu parles aussi du biais que peuvent avoir les algorithmes, et notamment à quel point les algorithmes peuvent être sexistes. En tout cas, parce qu'ils reproduisent, l'air de rien, le sexisme de la société, quoi. C'est passionnant, ce sujet.
Bah écoute, moi j'ai trouvé ça. Alors, pour moi, c'est vraiment le fil conducteur du livre, hein, c'est le biais algorithmique. Et j'explique bien dans le livre, tu vois, que l'algorithme n'est pas sexiste, n'est pas coupable, tu vois.
Oui.
Il traduit une forme de sexisme qu'on avait cru disparu, mais qui en fait existe toujours dans notre société. Sexisme ou tout autre préjugé, stéréotype qu'on a en fait au fond de nous. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre. J'essaie d'expliquer qu'on a tous des biais cognitifs. Moi, la première, et je l'explique, tu vois, je donne des exemples dans le livre. Et puis je dis, ces biais, ils peuvent être transmis aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un dessin, un texte, un objet, et ça peut être aussi un algorithme. Et pour moi, c'était vraiment important parce que moi, la première fois que j'ai parlé de biais algorithmique, c'était en octobre 2017, quand je suis venue faire cette conférence, la petite conférence hein, au point. Et personne n'en parlait à l'époque. Mais alors que tu vois, dans nos domaines, ça fait longtemps qu'on en parle. Tu vois, il y a plein de gens qui bossent dessus. Et en fait, donc les gens ne connaissaient pas. Et en fait, avec le livre, je me suis rendu compte que ça a touché encore beaucoup plus de gens. Tu vois, et qu'en fait, maintenant, les gens, même s'ils ne savent pas forcément te dire ce qu'est un biais algorithmique, parce qu'ils n'ont pas lu mon livre, mais au moins, ils pourront dire, ah oui, j'ai entendu parler. Ah oui, il y a un truc. Oui, je vois. Algorithme sexiste. Enfin, tu vois, ils pensent à des choses quand même. Ils ont des choses qui leur sortent, qui viennent comme ça, tu vois.
Et surtout, pour moi, enfin, alors, là, c'est le fondateur de Mademoiselle et qui a des médias derrière, c'est qu'il y a un truc fou. C'est, je me suis rendu compte là ces dernières années que les gens passaient de plus en plus lisaient de plus en plus leurs médias par les réseaux sociaux. Et qu'en fait, de ce fait-là, leur lecture et leur consommation d'une manière générale, alors ça marche aussi sur YouTube, hein, avec le système de recommandation, etc. De ce fait-là, leur recommandation est de plus en plus conditionnée parce que Facebook a décidé de te pousser en avant à un moment donné, ou parce que YouTube s'est dit, tiens, cette personne a regardé X vidéos avec des chats, donc en fait, je vais plus lui balancer que des vidéos avec des chats, et comme ça, il va plus jamais sortir de sa bulle. Ouais. Ça, je trouve aussi que c'est assez fou, et je pense que ça, il faudrait le dire le plus possible aux utilisateurs, en fait, c'est faites attention à ça aussi, parce que tu finis par rester dans ta bulle et que les algorithmes ont décidé de choisir, quoi.
Mais en fait, c'est là où, tu vois, moi, je au lieu de dire aux gens attention, parce que c'est très difficile de faire attention à quelque chose où tu comprends pas.
Oui.
Tu vois. C'est pour ça, par exemple, c'est pareil avec un enfant. Quand tu as un enfant, tu vois, pour pas qu'il brûle, tu veux pas qu'il touche au four, tu dis touche pas. Fais attention. Mais en fait, l'enfant, il comprend pas. Si tu commences à expliquer que c'est chaud, que tu vois, là, tu rentres dans un processus intelligent. Et donc, du coup, je pense que c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Mmh. Dire que les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles et que c'est mal et que faut faire attention, je pense que ça va pas faire que les gens vont changer de comportement. Je pense que le seul moyen de l'expliquer, de faire que ça change, c'est, alors il y a plein de raisons, mais en tout cas, à l'échelle individuelle, auprès des utilisateurs, parce qu'on sait qu'on peut faire des choses auprès des acteurs, mais auprès des utilisateurs, on peut leur expliquer comment fonctionnent des algorithmes de catégorisation. Donc ces algorithmes en fait qui créent littéralement ce que tu as dit là, des clusters, des bulles d'individus en fonction de l'usage qu'ils ont de ces réseaux sociaux, et en fait tu les mets dans des classes, et après en fait l'idée c'est que dans un individu qui appartient à une classe ressemble à tous les autres individus de cette classe, et donc on va davantage lui donner du contenu de ces gens-là de façon à le laisser dans sa zone de confort et qu'il puisse du coup consommer encore davantage. Donc ça, je pense que tu peux expliquer simplement aux gens comment ça fonctionne un algo de catégorisation, c'est que des stats, mais sans rentrer dans les équations statistiques, c'est pas le but, hein. Mais c'est vraiment d'expliquer, tu vois, comment ça fonctionne. Et en leur expliquant, je pense que du coup, ils comprendront vraiment l'impact de cette bulle, tu vois, et comment on fait pour en sortir.
Ouais, c'est sûr. Tu parles aussi des applis de rencontre, ce qui est encore un autre sujet sociétal énorme, hein, qui est drivé également par des algos. Où tu dis que selon toi, les algos peuvent, enfin les applis de rencontre ne peuvent vraiment nous sortir que des coups d'un soir, c'est ça?
Voilà, je dis soir comme lendemain dans le livre. J'ai pas dit un point cul.
Pardon.
J'essaie d'être correct, tu vois. C'est-à-dire un soir comme lendemain, tu vois. J'essaie de trouver un terme relativement politiquement correct, mais sinon oui, c'est exactement ça. Mais non, mais en fait. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir avec quelqu'un que tu auras rencontré sur une appli de rencontre, parce que la réalité, c'est que quand tu mets deux personnes, tu les fais se rencontrer et que tu as un biais initialement où tu dis, bah tiens, je match avec cette personne, donc forcément, la personne va peut-être plus te plaire parce qu'on t'aura dit que cette personne est bien pour toi. Mais bon. Mais, et on connaît aussi des gens qui se sont mariés, ils se sont rencontrés sur ces apps,
ça ne devrait
jamais devenir un biais de confirmation. Il y en a plein, mais oui. Mais en fait, ce que je dis, c'est que quand tu regardes, enfin, moi, je ne les connais pas, ces algos, tu vois, mais je devine un peu ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est quand même, enfin, les algos, ils fonctionnent sur des données. Qu'est-ce qu'il y a comme données dans une appli de rencontre? Il n'y a pas grand-chose. Tu as des données explicites sur le profil de la personne et le profil de la personne qu'elle recherche. Et puis après, tu as des données d'usage. Les données d'usage, ça se limite profondément à j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire le type de personne que t'aimes ou le type de profil que t'aimes pas. Mmh. Et à partir de là, en fait, c'est pareil. Si on va te proposer des gens que tu vas davantage aimer ou pas, mais en fait, quand tu regardes les critères, c'est quand même des critères relativement simples. C'est le physique, c'est une phrase, c'est, tu vois, c'est pas, je dis assez, assez ouvertement, mais je veux dire, ce qui te plaît dans, quand tu recherches le grand amour, entre guillemets, tu vois, c'est pas de savoir s'il aime faire du sport, s'il sait faire un selfie, et s'il sait, faire la cuisine, quoi. Ce que tu recherches, c'est davantage, tu vois, une fertilité émotionnelle, intellectuelle, tu vois, des choses comme ça. Et donc, en fait, tu vois, et d'ailleurs, je le dis dans le bouquin, je dis, l'une des meilleures apps de rencontre, c'est LinkedIn. Tu vois, et c'est connu, hein. Enfin, pourquoi? Parce que LinkedIn, si tu veux, c'est vachement plus subtil, quoi. Tu vois.
Et pourtant, c'est super mal vu de draguer sur LinkedIn, d'une manière générale.
Ouais, enfin, franchement, bah, dis donc, moi, je connais plein de gens qui se sont rencontrés sur LinkedIn. Hein. Donc, tu vois, c'est intéressant. Voilà, c'est ça.
Ok. Écoute, dernière chose dont je voulais parler avec toi, c'est l'un des projets que tu sors là. Alors, si je me trompe pas, si mon planning est respecté, ça sort le jeudi où ce podcast sortira.
Oui,
tu sors un essai, c'est ça?
Oui, alors je sors un petit essai dans la collection Et après, point d'interrogation, de ma maison d'édition, donc qui est l'Observatoire. Donc l'Observatoire a demandé à plus d'une vingtaine d'auteurs, je crois, d'écrire sur la crise actuelle et l'après, sous leur propre angle, prisme et ensemble de compétences. Donc t'as autant de philosophes, des économistes, des scientifiques, des philosophes, hein, voilà, t'as un peu de tout. Et donc moi, donc j'ai fait un petit essai qui s'appelle L'apprentissage, c'est la force, L'apprentissage, c'est la force. Et c'est donc un essai où je m'appuie, le fil conducteur, c'est les sciences, et en particulier ce qu'on appelle la méthode scientifique, qui est une méthode qui permet d'apprendre, de découvrir, de comprendre, et qui s'appuie sur quatre piliers, l'expérimentation, l'observation, le raisonnement logique et la théorie. Et d'expliquer en fait comment, avec cette crise, on a appris, on apprend, et ce qu'il faut retenir. Et surtout, que tout le monde apprend, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle de l'État. L'État aussi doit apprendre de ce qui s'est passé. Et j'aborde autant le sujet forcément de l'esprit critique et de la confiance envers les sciences et les scientifiques que l'esprit critique était quelque chose de très très important parce qu'il a été fortement abîmé avec ce confinement et la crise actuelle. Donc c'est une double effet. Et puis, et puis aussi tous les aspects, tu vois, de ce que je vois à ma petite échelle, du fonctionnement des entreprises, de comment les choses se sont réorganisées, d'aller chercher de nouvelles compétences chez chacun d'entre nous, d'aller faire que de tout bois et du coup de travailler différemment, etc., etc. Aussi de mettre en exergue les relations d'interdépendance entre les gens, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est quoi que j'ai appelé ça, l'apprentissage fait la force, parce que moi je crois énormément à l'éducation et à l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai mis apprentissage, parce qu'on apprend toute sa vie. Et voilà, et donc c'est vraiment, il y a ce fil conducteur qui est la méthode scientifique pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on a appris, comment on doit apprendre et comment on doit continuer à garder ça, ces réflexes d'apprentissage pour la suite, pour continuer à capitaliser sur notre apprentissage, parce qu'on va devenir beaucoup plus fort en fait, individuellement et collectivement.
Aurélie, merci beaucoup.
Merci à toi.
Je mettrai tous les liens pour se procurer tes ouvrages, te suivre également sur Twitter où t'es assez active pour suivre un petit peu ton parcours et ton actualité. En tout cas, un grand grand merci d'avoir partagé ton parcours comme ça, c'est hyper inspirant. Vraiment, merci beaucoup.
Bah, je te remercie infiniment, vraiment, Fabrice.
Et puis, à bientôt.
Bah oui, à très vite.
Et puis, force à toi pour le déconfinement. Et tout ça.
Ouais, ouais. Et bon courage à toi et merci pour tout ce que tu fais.
Merci aussi, à plus.
À plus.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.